Vous avez tous déjà entendu parler de la perspective non duelle? Jamais?
Oui, avec Jean-Marc
Montel aussi, oui. Monique?
Non.
Gilles aussi un peu?
Non.
Du tout? D'accord. Et vous deux?
Oui.
Ben moi, je fais une conférence de fois, tu n'étais pas.
Ah, on va commencer par ça.
Je vais aller avec.
Oui, si tu veux. On parle de. Enfin, moi, j'aime bien parler, Jean-Marc aussi d'ailleurs, de perspective non duelle. Perspective non duelle parce qu'il s'agit plus d'une perspective, c'est-à-dire d'un point de vue, d'une prise de conscience de la nature de la réalité à partir d'un certain point de vue plus élargi que le point de vue habituel, beaucoup plus que de n'importe quoi d'autre. Pour moi, c'est pas franchement une philosophie, pas franchement de la spiritualité ou de la religion, sûrement pas, enfin, etc. C'est beaucoup plus à voir avec la nature de la réalité. C'est-à-dire que d'une façon générale, on a tendance à penser d'une certaine manière, et en fait, c'est juste une pensée qui est devenue une croyance, et en réalité, c'est pas comme ça. Autrefois, les hommes pensaient que la Terre était plate, ça avait une conséquence, ils avaient peur d'aller loin en bateau, ils avaient peur de tomber dans le trou. Mais la Terre était quand même ronde, elle tournait quand même. Aujourd'hui, on croit qu'il y a un moi en tant qu'individu, une entité, un individu séparé, qui pense par lui-même, qui agit par lui-même, qui pose des actes par lui-même, et c'est faux. Et en fait, la perspective non-duelle, dans un premier temps, va être de remarquer, de voir, mais que en fait, c'est une idée, il y a l'idée d'un moi qui est cru. Et ça a des conséquences dramatiques, et qu'en fait c'est faux. Alors il y a comprendre qu'il n'y a pas de moi, il y a voir qu'il n'y a pas de moi, et il y a réaliser qu'il n'y a pas de moi. Et réaliser qu'il n'y a pas de moi, je veux dire, c'est le premier stade d'éveil, entre guillemets, parce que tout ça c'est que des mots, en réalité c'est beaucoup plus vaste que cela, mais c'est pour moi la première étape, la plus fréquente aussi, celle qu'on rencontre le plus souvent, et aussi la plus facile. On parlera aussi du reste, bien sûr. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de moi, en réalité, qu'il n'y en a jamais eu non plus, c'est juste une pensée crue depuis des millénaires, il n'y en a jamais eu. Aucun moi n'a jamais rien fait. Ça veut dire aussi que les choses se sont toujours déroulées en l'absence d'une entité, d'un individu appelé moi. Individu séparé. Qui penserait par lui-même, qui agirait par lui-même, qui poserait des actes par lui-même, et qui ferait des choix par lui-même. J'ai oublié ce que je voulais dire après. C'est-à-dire que comme je dis, il y a comprendre, voir, réaliser. Réaliser qu'il n'y a pas de moi apporte une grande liberté. Parce que, il a beaucoup, beaucoup moins de prise de tête déjà. Évidemment, puisque ce n'est pas moi, puisqu'il y en a pas, ça ne peut pas être moi. Il y a beaucoup moins de questions à se poser sur quoi faire, comment le faire, pourquoi, quel est le meilleur choix, etc. Les choses se font. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Spontanément les choix se font, spontanément les pensées apparaissent à l'esprit, spontanément des actes sont posés. Et tout cela en fait apparaît, et le mot apparaître est très important, apparaît sur fond d'être-té, sur fond de ce qu'on appelle je suis, l'être-té, la conscience d'être, l'étance, ça dépendra, on peut changer les mots, peu importe. C'est-à-dire que si vous regardez, là maintenant, enfin, si vous regardez, vous entendez le son de ma voix. Il n'y a aucun effort qui est fait pour entendre le son de ma voix. Il n'y a aucun effort qui est fait pour voir ma main bouger. Ça se fait de soi-même. De même, le corps respire. Et on dit tout le temps « je respire ». Ben non, je ne respire pas, le corps respire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abus de langage comme ça. Et en fait, c'est une facilité langagière. On emploie « je, me, moi, mien », etc. C'est une facilité langagière. C'est des raccourcis de langage. Au lieu de dire « le corps respire », et puis il y a telle pensée qui est apparue à cet esprit, on dit « je pense ». Et on dit « je respire ». Simplement. Et à force de dire cela, et puis par d'autres conditionnements dans l'enfance, on fait croire que « je » est quelqu'un. Un individu séparé qui pense, qui fait des choix, qui respire. Évidemment, ça, c'est pas vrai. Qui perçoit des choses, qui ressent quelque chose. Je ressens, j'entends le son de la voix de Gérard. Non, il n'y a pas un moi qui entend ça. C'est entendu de fait. Ça, c'est facile à voir. Par exemple, quand vous êtes concentré sur une tâche, vous n'entendez plus les bruits, mais ils sont. Enfin, vous n'avez plus conscience des bruits alentours, éventuellement, mais ils sont quand même entendus. Ou si jamais il y a un bruit fort, vous allez sursauter, même si vous n'êtes pas attentif à ce moment-là, au son. C'est-à-dire qu'en permanence, le corps perçoit plein de choses et ressent plein de choses. Les sensations physiques, c'est pareil. En ce moment, il y a plein de sensations physiques, mais vous n'y portez pas attention. Mais si je vous fais porter l'attention dessus, vous allez sentir le dos de la chaise, les fesses sur la chaise, le contact du pied au sol, etc., etc. Vous allez ressentir plein de choses, mais qui sont tout le temps ressenties par le corps, mais qui ne sont pas conscientisées. Il suffit pour cependant que je dise, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant? Et automatiquement, pof, ah oui, tiens, il y a ça, 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 ça. Mais il n'y a pas besoin d'un moi, entité, individu séparé, pour constater qu'il y a des sensations corporelles. Il y a sensations corporelles, et il y a conscience de ces sensations corporelles quand on porte l'attention, quand l'attention se porte dessus. Je dirais, si on parle clairement. Et je disais tout à l'heure, tout ceci arrive sur fond d'être-té, sur fond de conscience d'être, de je suis. Et là, je vais vous proposer quelque chose, c'est juste un instant, essayez d'arrêter d'être, là maintenant tout de suite. Et est-ce que vous y arrivez? Là, j'attends une réponse.
Mais déjà, ça veut dire quoi, essayer d'arrêter d'être?
Lâche le mental. Est-ce que tu peux arrêter d'être, là maintenant?
C'est-à-dire ne penser à rien ou...
Ne pas être.
Non.
Non. Tu peux pas ne pas être. Mais tu vois, le mental vient tout de suite dire « Mais attends, mais de quoi tu me parles ?» Mais en fait, c'est su sans le mental, avant toute pensée, c'est su « Je ne peux pas ne pas être. Je suis, je sais. » Mais on s'en occupe jamais. C'est clair pour toi ce que je dis là ? Oui ? Et tu vois que c'est avant le mental. Après, le mental va dire « Mais de quoi tu parles ?» Mais comment ? Tu vois ? Il va essayer de comprendre, mais c'est pas la peine. Je sais que je peux pas ne pas être. C'est clair pour tout le monde ça ou pas? S'il y en a pour qui c'est pas clair, dites-le parce que. Valérie, c'est bon? Ok. Donc à partir du moment où vous constatez, je peux pas ne pas être. Si vous restez avec cette conscience d'être, avec cette être-té, là maintenant tout de suite, c'est comment? Et si jamais ça fout le camp, essayez d'arrêter d'être de nouveau. Pof, non, je ne peux pas être. Et tout de suite, c'est ressenti, cette être-té est ressenti immédiatement. Et si vous restez avec cette être-té, c'est comment ?
C'est la paix.
Il y a de la paix, c'est paisible, oui. Quoi encore ?
Il y a de la densité.
Une forme de densité. calme, tranquille.
Animé.
Pardon ?
Animé.
Animé. Est-ce que ça a un problème ? Est-ce que ça a besoin de résoudre quelque chose ? Est-ce que ça a des projets ? Est-ce que ça pense au futur ou au passé ? Est-ce que... Non. Tout ça, la nuit, quand on dort, le corps continue à entendre. Peut-être pas à voir, parce que les yeux sont fermés, mais... Donc ça, ça ne s'arrête jamais. Mais d'une façon générale, je vais dire « je » parce que voilà, hein, mais ne vous arrêtez pas à ce « je », nous sommes happés par justement ces sensations, par ce qui apparaît à la conscience, par les sensations, par les perceptions, par les pensées. Tout de suite, hop, et ça y va.
Le mental s'arrête difficilement, justement.
Mais il n'a pas de raison de s'arrêter, parce que le corps s'arrête de sentir. La fonction du mental, entre guillemets, parce que c'est quoi le mental ? Enfin, quand on crée un mental, à mon avis, il n'y en a pas. C'est juste un ensemble de pensées. Ça pense, il y a des pensées qui apparaissent. Il y a des sensations qui apparaissent. Il y a des perceptions qui apparaissent en permanence. Mais on n'en fait pas une histoire. Mais les pensées, on a tendance à les croire de façon automatique et à rentrer dans le jeu des pensées et à aller avec ça. Et à perdre cette conscience d'être simplement cette être-té qui est en amont des pensées et qui voit apparaître les pensées, qui voit apparaître les sensations, qui voit apparaître les perceptions. C'est un peu comme quand vous allez dans une salle de cinéma. Vous n'allez pas y aller pour un écran blanc. Vous y allez pour les images projetées sur l'écran. Mais l'écran est toujours là. Et sans écran, vous ne verrez rien. Et cet être-té, ce je suis, c'est la même chose. C'est l'écran. Il est toujours tranquille. Il n'est pas affecté par les images qui sont projetées sur lui. C'est-à-dire, il n'est pas affecté par les sensations, les émotions, les perceptions, les pensées. Je suis. Cette conscience d'être, elle n'est pas affectée. Si vous regardez, c'était la même il y a 10 minutes, c'est la même quand vous allez bien, quand vous allez mal, quand vous soyez jeune ou vieux, peu importe, quel que soit votre âge,
quel que soit le film,
exactement, l'écran est le même, la conscience d'être demeure dans cette tranquillité, dans cette paisibilité, ce calme, cette densité, et c'est de la vie, c'est vivant en même temps, hein. C'est pas juste clair et mort.
Le souci, c'est qu'on nous demande d'intervenir dans la vie en ayant des positions, des choix. Un exemple tout bête, c'est on voit des gamins qui viennent de l'Est, qui font la manche ou qui s'occupent de nettoyer les vitres. On va se dire, mais quelle position j'ai par rapport à ça ? Est-ce que je me dis pour mon petit, il faudrait qu'ils aillent à l'école, il faudrait qu'on les enlève à leur macro qui s'occupe des... Ou alors, parce qu'on devrait se dire, il faut les renvoyer chez eux parce que c'est pas possible. Et à chaque fois, on nous demande dans la vie tout le temps d'avoir une position. Mais même dans la vie personnelle, alors on nous demande qu'est-ce qu'on fait, on change le frigo, on change pas le frigo, enfin des trucs tout bêtes. Ouais. Mais rester dans l'être-té, c'est. En fait, on nous en sort constamment et on n'arrive pas forcément à revenir.
Mais c'est qui ce on qui t'en sort constamment ?
J'en sors constamment.
Et c'est qui ce je qui en sort constamment ?
La volonté, c'est le souhait de répondre aux attentes des autres, aux questions
des autres. Reste avec ça. Le souhait de répondre aux attentes des autres.
Mmh. Ou la nécessité de s'adapter à des circonstances qui nous sont
imposées
de l'extérieur.
Il y a l'idée que je dois m'adapter aux circonstances. Donc il y a un jeu,
oui.
Et qu'en plus ce jeu doit s'adapter aux circonstances ou satisfaire les autres. C'est une idée.
Ouais.
Si vous ne pouviez pas penser cette idée-là, comment ce serait ? Cool.
C'est une hypothèse.
Non mais c'est une hypothèse. Mais regardez, si vous pouviez pas penser ça, je dois m'adapter. Je dois répondre devant. Si vous ne pouvez pas penser ça, comment ce serait ? Là, maintenant, tout de suite. Juste, oser la réponse, quoi.
Il faut déjà j'enlevais aussi le fait qu'on nous a toujours dit qu'il fallait toujours s'adapter.
Mais évidemment, c'est un conditionnement.
C'est un conditionnement, mais toujours bien s'adapter comme si c'était vraiment une raison de vivre. S'adapter à la
société. Mais peu importe, c'est un conditionnement fondé sur une pensée crue.
C'est-à-dire, oui, certes, on nous a conditionnés, mais est-ce qu'on a le choix? Bon, on est tous plus ou moins dans des situations de vie, professionnelles, voilà. Du coup,
mais là, à nouveau, est-ce qui serait ce « on » qui aurait le choix? Il est où? Ça présuppose l'idée d'un « moi » qui fait des choix.
Oui, mais...
Et c'est pareil, vous dites... On nous impose, la société impose, est-ce qu'on a le choix? Tout ça, ce sont encore des pensées, mais une à la fois. Je dois m'adapter. Si vous ne pensiez, si vous ne pouviez pas penser ça, là maintenant tout de suite, comment ce serait?
Ben là, on peut rester en entretien. Ça, il n'y a pas de problème.
Okay.
Par contre, les autres...
C'est la vacuité, mais bon. Après, dans notre quotidien, on peut pas...
Non, mais attendez, une chose à la fois et une à la fois. Sinon, on n'y arrivera jamais. Maintenant, si vous pensiez cette pensée, je dois m'adapter, mais que vous, qu'elle passait simplement, sans laisser de traces, sans y croire.
C'est lui dans le cœur.
Comment ce serait? Je dois m'adapter...
Beaucoup plus libre.
Voilà.
On fait les choses, mais comme ça.
On fait les choses.
Sans être conditionné par ce que l'autre va penser, l'image qu'on va donner, sans être.
Sans avoir peur des conséquences.
Sans avoir peur, tout le temps avoir peur.
Sans avoir tout le temps peur.
On y trouverait une forme de liberté.
On y trouverait une forme de liberté.
Et de détachement.
Qu'est-ce que vous venez chercher ici?
Là, ceci, c'est l'indifférence.
Qu'est-ce que vous venez chercher ici?
Précisément ça.
Et qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà cette liberté de fond que vous êtes en réalité? Les pensées crues.
Si.
Du style, je dois m'adapter. C'est clair ce que je dis là? Si
oui,
c'est pas clair.
C'est clair.
Rien à voir avec la différence.
C'est clair au niveau de l'intellect.
Oui.
Mais après, dans la réalisation, quand voilà. On est dans les dynamiques de vie, c'est moins évident. Voilà.
C'est ce que je disais tout à l'heure. D'une façon générale, nous sommes happés par nos pensées, mais je dis nous, mais...
Et nos émotions.
Il y a happage, les pensées happent.
Nos émotions.
Les pensées, les émotions. Mais les émotions sont liées à des pensées crues. Mmh. Voilà. Les pensées sont crues de façon automatique, et ça a des conséquences. Je perds la liberté que je suis, la paix que je suis. Je le suis tout le temps, je ne peux pas ne pas être cette paix et cette liberté, soyons clairs. Mais c'est plus possible de le ressentir, de le manifester, de le vivre pleinement, parce que c'est encombré par des pensées crues. Je crois que la Terre est plate et j'ai peur. Je dois m'adapter, j'ai peur. Voilà.
Il n'y a pas que les pensées crues, il y a aussi l'inconscient, les pulsions. Qu'est-ce qu'on en fait de l'inconscient?
Là, c'est trop compliqué pour moi. Pourtant, j'étais psy, mais là, j'arrive pas à suivre.
C'est-à-dire l'irruption, parfois, au sein d'une situation...
On peut
avoir l'irruption, mais... justement, d'un émotionnel qui se
oui.
malgré nous et qui vient entraver...
Alors un émotionnel de ce type-là est toujours, ou quasiment toujours, lié à des pensées crues. Une pulsion est une pulsion, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas moi, qui arrive en nous, quoi, qui est toujours arrivé.
Par exemple, pour donner un exemple, la colère ou le rejet de l'autre, oui. Sans raison, c'est-à-dire il ne s'est rien passé.
Il n'y a jamais pas de raison.
Bon, enfin, quelque chose d'anodin.
Oui.
Si on prend une relation de couple, par exemple.
Oui, souvent on se fâche très fort pour des détails.
Dans ce contexte-là, sans rentrer dans des détails précis, tout semble réuni pour que ce soit parfait. Mmh. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui dit quelque chose qui va éveiller chez l'autre une réaction totalement démesurée, disproportionnée.
Parce qu'il y a une blessure qui est peut-être qui est touchée là. C'est quelque chose du passé qui n'a pas été traité.
C'est quand ce type d'irruption émotionnelle qui n'est pas facile à contrôler. Mm-hmm.
Mais c'est évidemment lié à des pensées crues aussi, même si ce n'est pas vu d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, mais peu importe, je ne demande même pas de me croire sur parole. Si vous regardez cette blessure, pensez à la blessure la plus forte que vous ayez ressentie de toute votre existence, là maintenant. Plutôt que celle qui apparaît à votre esprit.
La plus évidente, la plus.
Ou la plus, celle qui vient là maintenant. Qu'est-ce qui était insupportable en termes d'événements? Qu'est-ce qui s'est passé qui était vraiment insupportable?
Très souvent, enfin, moi ce qui me vient à l'esprit, là, c'est très souvent une blessure narcissique, enfin, c'est très souvent lié à l'ego qui.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que l'autre vient réveiller quelque chose ou vous renvoie une image de vous-même. Qui vous semble inacceptable parce que ne correspondant pas à ce que vous
il n'aurait pas dû dire ça, il ne devrait pas me voir comme ça.
Voilà. Et cette image qui vous renvoie, elle est tellement insupportable qu'elle peut vous détruire. Elle peut détruire, ça peut être.
Je pourrais être détruit.
Je pourrais être détruit.
Oui. Détruit. Mais tout ça, ce sont des pensées. Il ne devrait pas me voir comme ça. S'il me voit comme ça, je peux être détruite. Ce sont des pensées.
Mais c'est des pensées, mais après avoir pensé. C'est-à-dire, sur le coup, on réagit.
C'est-à-dire, c'est-à-dire que ça va plus vite que la lumière. La pensée est déjà là, en fond, qui vient créer la réaction. Si vous ne pensiez pas, si vous ne pouviez pas penser ça, est-ce qu'il y aurait une réaction aussi forte?
Non, alors bien sûr, la vie, c'est lié à toutes ces blessures.
Mais ces blessures sont liées à des pensées.
Depuis toujours.
Depuis toujours.
Mais alors, comment déconstruire ça?
Le regard, comment on fait là tout de suite?
Apprendre cette habitude, donc. Chaque fois qu'on est confronté à ce type de situation, avec ce type de phénomène, avoir le réflexe, essayer de développer cette habitude de prendre cette distance.
Sans en faire une stratégie, parce que sinon c'est récupéré par l'idée d'un moi qui va appliquer
ça. C'est dur,
ça.
Hein.
C'est très dur.
C'est à la fois très dur et très simple, parce que regardez combien de temps il faut là tout de suite. Pour dire, ah oui, mais quand j'ai été blessé profondément, il y avait l'image de moi qui était atteinte. C'est-à-dire, je ne supportais pas qu'il pense ça de moi. Il ne doit pas, sous-entendu, il ne doit pas penser ça de moi. Il me faut quoi, 2 minutes pour trouver ça? Et puis en plus, j'ai l'idée que je peux être détruite. Il me faut combien de temps de plus? 10 secondes de plus pour de vous retrouver ça. Maintenant, si vous ne pouviez pas penser ces deux pensées, vous n'auriez pas été blessé.
Ben bien sûr.
Si ces pensées étaient apparues et qu'elles n'avaient pas été crues, elles apparaissent, oh, ça choque à l'intérieur et ça passe.
Ça serait comme d'avoir une.
Ben, ça passe et c'est fini, il n'y aurait pas eu de réaction.
C'est comme d'avoir une cuirasse là, qui nous protège.
Non, ce n'est pas une cuirasse.
Mais est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, c'est pas.
C'est pas une cuirasse. Non. C'est au contraire une totale liberté que tout puisse arriver. Ça va juste traverser. Parce que ce n'est pas arrêté, ce n'est pas figé, ce n'est pas cristallisé, ce n'est pas cru.
Donc quand j'ai une pensée, quelque chose de l'autre qui m'atteint, qui me blesse, c'est avoir cette aptitude de le laisser me traverser, comme vous dites, sans...
N'essayez pas d'en faire une stratégie. N'essayez pas d'en faire, c'est beaucoup trop compliqué. Vous êtes ce regard qui se pose ou pas sur les choses, qui est posé en permanence sur les choses, mais ce n'est pas forcément conscient. Vous l'êtes ce regard. De même que vous ne pouvez pas ne pas être, quand vous êtes dans cette conscience d'être, vous savez, c'est évident qu'il y a de la conscience, c'est évident que les choses sont vues, perçues, etc. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est de cela dont je parle.
Oui, mais quand on a fait tout un chemin de vie, justement, en étant...
Mais évidemment, il s'agit de déconstruire... Tout ce fatras de choses inutiles et souffrantes. Pas de pensée crue, pas de souffrance. Voilà ce que moi je dirais. Le plus petit malaise, le plus petit mal-être, jusqu'à la plus grande des souffrances, et je ne parle pas de douleur physique, hein, de souffrance psycho-émotionnelle, ça veut dire qu'il y a une pensée crue.
Et moi, ce qui m'interpelle avec la pensée crue, c'est que des fois, la réaction, elle peut être immédiate.
Mais bien évidemment.
Quelqu'un qui vous...
La pensée n'a pas été conscientisée.
Ou, je ne sais pas, en voiture, souvent ça arrive, quelqu'un qui fait une... Vous êtes une petite connard.
Oui. Bon, ça, c'est une réaction comme ça. Est-ce que après avoir dit connard, ça passe, ou bien est-ce que la colère reste?
Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que la réaction a eu lieu.
Ah, mais c'est normal qu'il y ait une réaction.
Oui,
il y a un bruit fort, on sursaute.
Il peut être trop tard, enfin, on a fait une réaction,
non, ça dépend.
Oui, c'est ça.
Ça dépend.
On a perdu le contrôle, c'est ça le problème. On perd le contrôle.
Il y a l'idée qu'il y a un quelqu'un et que ce quelqu'un a le contrôle.
C'est ça que j'essaie de.
Mais alors, il y a réaction, c'est normal. Il y a un bruit fort, il y a une réaction. On sursaute, tout le monde. C'est normal qu'il y ait des réactions. Mais une fois que le bruit fort est passé, eh ben ça se calme. Après, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis c'est fini. On n'en fait pas une histoire. D'accord? Ça, c'est. Il y a quelque chose de tout à fait normal dans une réaction. C'est physiologique, quoi. Quelqu'un qui fait une queue de poisson, il y a une surprise, forcément, il y a une réaction. Alors, ça peut sortir sous connard ou simplement une contraction, peu importe. Est-ce qu'après, ça reste? Mais quel imbécile, comment ils peuvent faire ça, et jamais ils devraient? Est-ce qu'il y a tout un discours comme ça qui sort derrière? Ou est-ce que c'est juste connard et après c'est fini?
Le problème, c'est la réaction.
Mais la réaction, elle est physique.
Vous êtes un conjoint ou à quelqu'un, vous lui mettez un coup de poing. Non,
ça, c'est déjà une réaction plus forte.
Voilà, c'est ça, la réaction, elle peut être, je ne sais pas. Quoi. On perd le contrôle. Il y a des gens qui assassinent des gens.
Il y a une violence de fond, même chez les animaux, qui est là. Il y a des instincts, il y a des choses comme ça. Enfin, violence, encore que je parlerais plus d'agressivité que de violence. Il y a une agressivité de fond qui est physiologique et qui est normale. Hein. Et qui ne disparaîtra pas, qui n'est pas à faire disparaître. Mais dans ce que vous dites, j'entends, on perd le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un moi qui pourrait avoir le contrôle. Il y a l'idée d'un moi et d'un, et il y a l'idée de ce moi qui pourrait avoir le contrôle. Et ce que moi je dis, entre guillemets moi, c'est qu'il n'y a pas de moi. Donc il n'y a pas un moi qui peut avoir le contrôle ou qui peut ne pas avoir le contrôle. Il n'y a pas un moi qui peut choisir ou qui peut ne pas choisir. Il y a l'idée d'un moi, et cette idée d'un moi a des conséquences. Je suis responsable de ce que je fais. Toutes les autres pensées qui commencent par « je » peuvent être crues, parce qu'il y a l'idée d'un moi qui est crue. Mais si l'idée d'un moi tombe, le reste s'effondre avec. Pas forcément immédiatement tout de suite, mais dès que c'est vu, ça va être vu comme étant faux, puisqu'il n'y a pas de moi.
Il y a quelque chose qui m'interpelle là aussi. Est-ce que ça peut être dangereux de, est-ce que j'ai bien entendu de dire finalement, s'il n'y a pas de jeu, donc peut-être je ne suis pas responsable, hein?
Alors ça, c'est récupérer le système et dire je ne suis pas responsable, donc je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a encore l'idée d'un moi.
Ça peut devenir très pervers, ça.
Ça, c'est très pervers, oui. Parce que c'est l'idée d'un moi, ça s'appuie toujours sur l'idée d'un moi. Ah, mais moi, je ne suis pas responsable.
Mais dans ce que j'ai entendu, là, je pense que l'aboutissement logique... Je ne dis pas
qu'on est responsable ou qu'on n'est pas responsable. Je dis qu'il n'y a pas une entité, un individu séparé qui pourrait être, à qui ce choix pourrait s'offrir.
Donc, malgré tout, dans notre vie, on a tous des choix à faire qui posent notre responsabilité, justement.
Si un enfant est à côté de vous, et il se met à traverser la rue alors qu'il y a une voiture qui arrive. C'est même pas le vôtre. Vous croyez pas que vous avez bloqué de façon automatique sans même réfléchir? Est-ce qu'il y a besoin d'un sentiment de responsabilité? Non. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, ça aussi c'est une idée qu'on croit sur parole, il y a l'idée qu'on doit exercer des choix, qu'on doit prendre nos responsabilités, qu'on doit faire telle et telle chose. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Les choses arrivent d'elles-mêmes, spontanément, la vie prend soin d'elle-même, spontanément on va bloquer un enfant s'il se met en danger, spontanément, même si c'est pas le nôtre. C'est évident, quoi.
Dans cette situation-là, oui.
Mais dans plein d'autres situations.
Il y a quand même beaucoup de situations dans le vécu de nos relations où c'est pas si évident.
Par exemple.
Où il y a plein de gens qui vont fuir leurs responsabilités, qui vont éviter justement d'avoir cet acte salvateur qui va nourrir la vie dont vous avez parlé. Je pense qu'on a tous dans nos vécus des exemples de personnes qui, et nous parfois aussi, qui allons choisir égoïstement ce qui nous convient, même si on sait confusément que ça va être au détriment de quelqu'un
d'autre. Et qu'est-ce qui vous fait choisir ça? Regardez pour vous.
L'intérêt, l'intérêt immédiat de l'ego, sans doute.
L'intérêt immédiat, non, regardez bien. Prenez un exemple précis dans votre histoire. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir à ce moment-là d'avoir une attitude qui n'était pas 100% généreuse? On va dire ça comme ça.
Ça peut être l'égoïsme, ça peut être
le confort. Je dis l'égoïsme.
Non, non, mais allez regard plus pointu que ça. Très précisément, pour quelle raison?
C'est la peur pour le jeu.
La peur.
Il faut que je fasse ça pour moi.
Je dois le faire pour moi parce que sinon...
Je suis en danger.
Voilà. Le sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice.
Donc il y a une idée que ça de, les choses devraient s'arriver de façon juste.
La société est injuste, la société me fait du tort, donc à un moment donné, pourquoi est-ce que moi je vais toujours devoir payer la facture en quelque sorte?
Voilà. Donc, et si vous ne pouviez pas avoir cette pensée-là, la société est injuste?
Bien entendu, oui.
Et si vous l'aviez mais que vous ne la croyez pas? Vous voyez ce que je vous montre à chaque fois?
On ne choisit pas.
À chaque fois? Pardon?
On ne choisit pas de croire ou pas.
Non, tu ne choisis pas de croire ou pas. C'est exact. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait exercer un choix. Et pareil, tu disais tout à l'heure, sinon je vais être en danger. Mais ça aussi, c'est une pensée. Si tu ne pouvais pas penser, je vais être en danger, la question ne se poserait pas. C'est-à-dire que de nouveau, tout cela s'appuie sur des pensées crues. Quand on y regarde de près, mais c'est vrai qu'il faut les regarder au microscope peut-être, hein. Et puis il y a l'idée qu'il faut faire ce qu'il faut pour vivre, pour s'en, on doit gagner sa vie, hein, on doit faire ce qu'il faut pour réussir à survivre dans le monde, parce que sinon il va se passer des choses graves, on va mourir de faim, comme si ça pouvait vraiment arriver dans un pays comme la France en plus. Et puis même si jamais ça arrivait, et alors? Je veux dire, j'allais dire, il n'y a pas Morda aussi, mais et alors? On a un problème aussi avec l'idée de la mort.
C'est quand même choquant quand vous dites même en France quelqu'un mourir de faim. Alors
ça n'arrive pas chez nous enfin.
Mais si ça arrive.
Oh ben, il y a les soupes populaires.
Écoutez, non, je connais personnellement une dame qui s'occupe des sans-abri à Cannes. Cet hiver, elle a trop découvert, elle a enterré trois.
Mort de froid.
De froid et de faim sur le monde, parce qu'elle sait tous les jours aller leur donner. Mais le jour où elle ne pouvait pas aller leur donner à manger, elle en a enterré trois. Donc, surtout, enfin, quand vous prenez une personne à Cannes, quelqu'un qui vit sur le trottoir qui est mort de faim, et après quelqu'un qui vit dans une somptueuse, vous voyez les différences. Donc,
il y a des grosses différences.
C'est comment peut-on accepter ça? Enfin, moi, ça
me dit. On ne peut pas.
On ne peut
Je
pas.
Ne peut pas.
C'est encore des pensées, oui.
Mais c'est, comme vous dites, alors, mais on ne peut pas. Enfin,
non,
c'est
très, je ne suis pas en train de dire, il ne faut rien faire.
C'est très difficile de rester zen, dire bah oui, c'est normal que quelqu'un meure de faim.
Jamais, je dirais ça.
Quelqu'un mange, je dirais.
Il n'est pas du tout question de dire que c'est normal, ni de dire qu'il ne faut rien faire, ou que je ne peux rien faire, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Mais par exemple, prenez cette femme qui vous dit qu'elle est allée nourrir ces personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir un moi, individu, entité séparée, qui fait des choix pour faire ça. C'est son cœur qui parle.
Oui, mais bien sûr.
D'accord? Elle l'a fait. C'est comme de bloquer un enfant qui va traverser la rue. Et pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Comment est-ce qu'il est possible qu'en France, au XXIe siècle, il y ait des gens qui meurent de froid ou de faim dans la rue?
Bien sûr.
Ben moi, je dis que c'est parce que la plupart des gens, ils ont des pensées crues. Qui les empêchent d'être simplement là, ouverts, à répondre aux besoins des uns et des autres. Et il y a aussi des pensées crues chez ceux qui se laissent mourir de froid et de faim dans la rue. Ils pensent eux aussi que ben, peut-être ils méritent pas mieux, ou que personne ne va les héberger, ou que je ne sais pas quoi. Je sais pas. Ce que moi je dis, c'est que les pensées crues sont responsables de toute la souffrance humaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller aider les autres. Ce serait vraiment me trahir, sinon je ne serais pas là déjà. Non, pas que je ne crois pas que je suis en train d'aider quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas moi qui pourrais faire ça. Ça se fait de soi-même. Mais c'est ça aussi. Ces choses-là se font d'elles-mêmes quand il n'y a rien qui les entrave. Enfin, je ne sais pas, pour moi, l'homme est naturellement bon. Peut-être.
Regardez tout autour de vous en ce moment.
Pour moi, l'homme est naturellement bon. Mais quoi qu'il se passe à l'extérieur.
Mais vous regardez, parce que, écoutez les news. Enfin,
parce que c'est pris par des pensées crues. Enlevez toutes les pensées crues. Je veux dire, imaginez un instant que les gens arrêtent de croire en leurs pensées. Mais ça va changer le monde.
Absolument, mais est-ce que c'est réalisable ou est-ce qu'on n'est pas dans l'utopie là ?
Oui, voilà, c'est
non,
ça.
Mais je m'adresse qu'à vous là. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de succès, peut-être.
Si on est là, c'est que justement on est en recherche, c'est qu'on a déjà amorcé un certain nombre d'interrogations par rapport à ce malheur qui nous accable tous les jours dans nos tentatives d'agir au mieux. Et pourtant, on est rattrapé par tout ce que.
On est rattrapé par des pensées qui sont crues de façon automatique sans être regardées.
Par une multitude de pensées.
Par une multitude de pensées, une foultitude, des milliards de pensées.
On est aussi pollué par un environnement
qui pense d'une certaine manière et qui nous pousse à penser de la même manière.
C'est difficile à moi d'être dans une bulle et justement de pouvoir faire cette connexion à l'être.
Si vous ne pouviez pas penser ça, c'était extrêmement difficile. Si vous ne pouviez pas penser, c'est extrêmement difficile. Si vous ne pouviez pas penser ça.
Ben on essaie.
Comment ce serait là maintenant tout de suite si vous ne pouviez pas penser ça ?
Avec, mais j'ai des moments où bon, effectivement j'apprends à méditer avec Jean-Marc Mantel, etc. Ou dans la prière, hein, pour une tradition plus traditionnelle, catholique, bon, ou autre, ou bouddhiste, peu importe. Quand on est en méditation, quand on est en prière, on est très bien. Enfin, Dieu merci, je connais, il m'est arrivé de faire des retraites, je connais des moments de plénitude et de grande unité à l'être. Mais j'ai aussi, dans ma vie, dans mon travail ou dans mes relations, des moments où je suis dévastée.
Et c'est
pour ça que je suis en quête.
Évidemment.
Voilà.
Parce que moi si on pouvait plonger, venir ma vie, venir là dans des. Avec des réunions comme aujourd'hui. Après, demain, je vais dans un sanctuaire. Je sais absolument ce qu'il faut faire ou aller pour retrouver la paix. Après, de rencontrer que des gens, ouverts, intelligents, sensés. Enfin, voilà. Mais c'est merveilleux. Mais moi, je voudrais bien vivre comme ça.
Vous êtes dans l'idée que un monde après, parfait.
La réalité.
Non, mais la réalité, elle est comme elle est. La réalité, elle est existentielle, elle est telle qu'elle est. N'attendez pas que le monde soit parfait. N'attendez pas que les autres changent, que les gens cessent de penser, croire à leurs pensées, que ce soit autrement. Ça n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. Pour être le bonheur que vous êtes, non pas pour que vous soyez heureux, parce que ça c'est une expérience. Pour être le bonheur que vous êtes. Sinon, c'est un bonheur conditionné. Il va être conditionné à la justice, à la justesse, il va être conditionné à l'état de santé, il va être conditionné aux gens qui m'entourent, à ce qui est dit ou pas dit. Mais ce sera toujours que provisoire. Ça n'a pas d'intérêt, j'ai envie de dire. Ok, ça fait du bien quand ça arrive. Mais c'est pas ça, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on parle de changement de perspective. Parce que, d'une façon générale, on colle à l'existence, à l'existentiel. On croit qu'on est ce qui arrive. On pourrait dire ça comme ça. On croit qu'on est nos pensées, on croit qu'on est nos émotions, on croit qu'on est nos pensées, nos perceptions, etc. Que c'est à nous que ça arrive, les choses. Mais c'est pas vrai. En réalité, c'est pas vrai. Ça arrive en nous. Pas à nous. Et à partir du moment où il y a ce changement de perspective, où c'est plus collé, c'est à moi que ça arrive en moi, mais tout peut apparaître. Ça n'a pas d'importance. Quelles que soient les images que le film déroule sur l'écran, l'écran est... c'est toujours le même. Je suis est toujours semblable. Cette être-té est toujours la même. Et c'est le bonheur même.
Donc c'est à nous, en fait, de nous protéger.
Sûrement pas se protéger. Et c'est pas un nous qui peut faire quelque chose, il n'y a pas un moi qui peut faire quelque chose. Tout ce que je fais ici, c'est raviver, c'est-à-dire, c'est pas moi qui le fais, ça se fait, c'est raviver, souvenez-vous, vous êtes. Souviens-toi, t'es pas tes pensées, souviens-toi, tu es. C'est ce que je répète en boucle, d'une manière ou d'une autre, finalement.
En fait, il faut qu'on ait ça en fond de pensée. Dès qu'on a une pensée, il faut le souvenir. Dès qu'on a une pensée, il faut qu'on se souvenir. C'est en fait, il faudrait. Est-ce que c'est. Enfin, je cherche des trucs, hein. Je sais que c'est pas bien de chercher des trucs. Mais.
Les pensées, pourquoi ce serait pas bien?
Les pensées, je les subis, je les vois tout le temps.
Elles apparaissent, oui.
Et franchement, je galope avec, hein.
Oui, c'est, oui, comme un cheval fou.
Et je m'épuise et...
Ben oui.
Mais...
Mais non, pas minable, c'est une pensée de plus que tu rajoutes, qui va faire souffrir.
C'est... Non, mais l'état d'épuisement qui s'ensuit est...
Et oui, t'es épuisé, oui. Ah, et à ce moment-là, ça s'arrête. C'est comme un cheval, tu sais, ou les gamins, les enfants, ils bougent dans tous les sens et pouf, ils tombent, ils dorment.
Non, parfois ça ne s'arrête pas, au contraire, ça devient, ça peut être...
Mais à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, ça s'arrête.
Mais ça peut durer longtemps.
Ça peut durer très longtemps, ça donnait l'impression que ça ne s'arrête pas, mais à un moment donné, ça s'arrête.
C'est toujours se rappeler, alors, le moyen pour ne pas croire à ses pensées, c'est toujours y revenir.
C'est le moyen, j'ai toujours embêté avec cette histoire de trouver un moyen pour, c'est mettre en place une stratégie.
À un moment donné, ça doit devenir naturel.
C'est-à-dire que le regard est notre nature même. Être est notre nature même.
Non, mais cette idée de toujours être présent à ce qui se passe. Quoi.
Mais on ne peut pas tout le temps être présent à ce qui se passe. Essayez même pas. Détendez-vous. Arrêtez d'exiger tellement de vous, c'est pas la peine. Et c'est dans cette détente que justement les choses vont apparaître beaucoup plus facilement. Essayez pas d'être présent tout le temps. Et quand je dis ça, qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite plus facile d'être présent. Vous le remarquez? Tout de suite, c'est plus facile. C'est l'inverse. On a toujours voulu obtenir quelque chose, aller vers quelque chose. C'est-à-dire, on étire l'élastique et on en oublie de plus en plus l'être que l'on est. Relâchez, détendez-vous. Et vous revenez automatiquement à l'être que vous êtes. C'est ce que vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas l'être. Forcément, vous tombez dedans automatiquement. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « il n'y a rien à faire ». Dans le sens de « il n'y a pas à faire quelque chose pour ». Mais n'allez pas en conclure qu'il faut faire rien. Parce que ça, c'est encore faire quelque chose.
C'est la vulnérabilité dans toute sa splendeur. C'est vulnérable.
Je ne sais pas.
Vulnérabilité
ne me parle pas trop là, je parlais plus de tranquillité, d'ouverture, de détente, mais peut-être pourquoi pas vulnérabilité, je sais pas.
Mais sinon on se défend, on devient pas vulnérable. Et là, si on se défend, c'est qu'il y a.
Mais si une défense apparaît, il y a une défense qui apparaît. C'est pas je me défends, je me défends, c'est il y a une défense qui apparaît. Ben, il y a une défense qui apparaît. Et alors ? À un moment donné, elle va être constatée, cette défense. À un moment donné, la réaction va être constatée. À un moment donné, ça va être vu. Ça va être vu. Et c'est le moment important qui est le plus souvent négligé parce que on nous a appris aussi à négliger ces instants-là. Hein. C'est, enfin, en tout cas moi, mais je pense beaucoup. C'est cet instant-là qui est important. Ah, mais ça constate qu'il y a défense. Ah, mais ça constate qu'il y a crispation. Ah, mais ça constate que ça pense en boucle. Ah, mais ça constate qu'il y a injustice. Ah, mais ça constate. Qu'est-ce que c'est qui constate ? Et est-ce que cela qui constate est pris ? Non. Et cela qui constate, il est tout le temps présent. C'est pas tout le temps conscientisé, mais c'est tout le temps présent. Je sais que je suis conscient. J'ai aucun doute sur le fait que je suis conscient. Et je sais que je suis conscient d'être conscient. J'ai pas de doute là-dessus.
J'ai constaté ce sont les émotions.
Pardon ?
Et qu'on n'est plus dans un moment de détente, on est incapable de voir que ça constate. On a mis dans le bidon. Donc en fait, il faut vraiment être calme. Enfin, il faut être calme.
Mais non, parce que ça, c'est trop.
C'est. Ben, faut se dire. Enfin, c'est pas qu'il faut se dire, mais il faut revenir à soi. Faut revenir à soi et. Parce que quand vous dites j'essaie de ne pas être, moi j'appelle ça la méditation. C'est vraiment...
Oui, mais sauf qu'il faut combien de temps pour se poser ça, tu vois.
Là,
tout de suite, essaye d'arrêter d'être là maintenant, tout de suite. Deux secondes plus tard, pouf. C'est
là, parce que là, on est dans une bonne ambiance, prédisposée, mais par exemple, quand on est dans une ambiance où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de...
Le problème, c'est qu'on n'y pense pas.
Une compétition, on ne peut pas comme ça, ça c'est pas possible. Enfin, moi, j'arrive pas à.
Oui, aujourd'hui.
Quand il y a des échéances, quand il y a des choses.
Des choix à faire.
Mais c'est pareil, mais même quand il y a des échéances, même quand il y a des choix à faire, on peut, une demi-seconde, essayer d'arrêter d'être là maintenant. Et paf, tout de suite, on est renvoyé. Il y a ce retour à ce je suis, à cette être-té, au fait d'être conscient. Du fait que l'on est conscient, on pourrait dire. Tout de suite. Ça prend quelques secondes. En quoi ça va empêcher d'atteindre son objectif à l'heure? En quoi ça va empêcher au choix de se faire? Parce que le choix, il y a l'idée que je choisis. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pareil. Regardez, prenez un choix, des choix que vous avez fait dans votre vie. Et regardez comment ça s'est fait ce choix. Est-ce que vous avez vraiment choisi ou est-ce qu'à un moment donné, le choix s'est fait? Parfois, on y réfléchit des jours et des jours et des jours. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je choisisse. Et puis, il n'y a pas de réponse. Puis, à un moment donné, paf, ça se fait.
Parce qu'après, il y a aussi des conditionnements avec nos lectures, etc., dans toutes ces sphères spirituelles du style. On doit être créateur de... Enfin, on doit devenir créateur de notre vie.
Ça, c'est peut-être spirituel, mais c'est pas non duel.
Voilà. Ça, ok.
Et je crois même pas que ce soit franchement spirituel.
Donc, enfin.
Attends, moi, ça me fait pas rire.
Mais moi non plus, parce que. Je suis là-dedans.
C'est une croyance, ça.
Voilà,
on est le créateur de notre vie, c'est une croyance.
C'est un conditionnement.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. La vie se déroule.
Il faut se défaire aussi de tout ça, parce qu'on est en chemin, et c'est vrai que. Dès lors qu'on se donne le temps de lire un peu, d'aller sur le net, d'écouter beaucoup d'enseignements, à la fin, pour moi, il y a une vraie confusion avec beaucoup de choses.
Alors, c'est simple. Mm-hmm. Si ça confuse, tu le prends et tu le mets de côté. C'est pas pour toi. Mm-hmm. C'est clair. Ce qui va être pour toi, c'est là où ça dit oui à l'intérieur, là où ça résonne, là où il y a de la détente, de la paix, de la joie, tu vois, du bonheur, de la tranquillité, là, mm-hmm. Tu vois. Là où ça te pose, là, je ne sais même plus ce que j'ai dit tout à l'heure, tout d'un coup, pouf, ça s'est détendu. Mais c'est ça, c'est là. Là, il n'y a pas de doute. Tu vois? La question ne se pose pas. Pourquoi ? Parce que ça rejoint un su. Quand je vous dis « essayez d'arrêter d'être, j'ai rien fait », vous avez toujours été simplement « ah oui, tiens, c'est vrai, je suis tout d'un coup », ça vous le rappelle. Mais ce que vous êtes, vous ne pouvez pas ne pas le savoir, vous ne pouvez pas ne pas l'être, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en mots, vous l'êtes. Et donc, quand, quand ça dit oui à l'intérieur, quand ça se détend, quand ça sourit, eh ben, c'est que ça correspond à ce que vous êtes. Là, oui. Mais sinon, laissez tomber, c'est tout du...
Juste pour donner un exemple, je ne cherche pas forcément à opposer des enseignements, ah oui. Mais quand Geneviève parle de ce monde qui est terrible, oui. Moi, il m'est arrivé, là, assez récemment, de m'enfoncer dans les lectures de Guylaine Langteau. Je ne connais pas. C'est une femme qui dénonce, elle écrit 10 livrets sur la société, la famille, la santé... elle a écrit La mafia médicale il y a très longtemps, il y a 14 ans, qui dénonce, mais qui va très 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 loin. Et je me suis enfoncée dans ces lectures-là, hein, qui parlent des Illuminati, beaucoup beaucoup de choses, quoi. Et donc, de ce qu'est véritablement les politiciens par rapport à l'élite. Voilà, donc, je me suis enfoncée dans ces lectures-là. Pour quelque part essayer d'équilibrer ce que je sentais monter en moi, de tranquillité, je disais, c'est pas normal que je sois aussi bien dans ce monde qui va aussi mal. Et donc je me suis laissée happer par ces lectures-là pour à nouveau me faire redescendre.
C'est une expérience comme une autre.
Voilà. Mais c'était histoire de. Après, c'est vrai que.
Il est vrai que dans le monde, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas belles d'un point de vue existentiel. Donc, on ne va pas nier la réalité des choses. Il y a des horreurs qui arrivent d'un point de vue existentiel. On ne peut pas le nier, c'est évident. Et une fois de plus, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Ce serait vraiment trahir le message, entre guillemets. Ce que moi je dis, c'est que cette existence apparaît au sein de ce qui est. Elle apparaît.
C'est des apparences.
Oui, pour moi ce sont que des apparences. C'est un rêve, ailé entre guillemets, c'est un rêve, c'est une construction mentale. Et en ce sens-là, quelque part, quand il y avait n'importe quoi, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous rêvez la nuit, n'importe quoi, même la chose la plus horrible, vous voyez le matin, vous êtes un penseur, d'accord, mais c'est tout, quoi. Il ne s'est rien passé, en réalité. Et il y a réellement un rêve. On ne peut pas nier la réalité du rêve. On ne peut pas nier la réalité d'un mirage. On ne peut pas nier la réalité de cette existence. Mais en réalité ultime, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un mirage, ce n'est qu'un film, ce n'est... que l'existence. Et là, pour toucher ça un tout petit peu, on va l'aborder. Par exemple, là maintenant, ce que je dis, vous l'entendez, vous en êtes conscient. Et vous êtes conscient du fait que vous êtes conscient d'entendre. Vous suivez ? Qu'est-ce qui connaît ça ?
L'inconnu.
Qu'est-ce qui connaît ça ? L'inconnaissable. Mais restez juste avec... Là, on ne peut pas aller. Tu sens que quelque part, tout explose, quoi.
Non, mais bêtement, je pense aux éveillés qui peuvent rester scotchés, on va dire.
Il y a absorption. Mais tu vois que tout de suite, en quelques secondes, tu le touches. Essayez d'arrêter d'être à nouveau. Il y a cette conscience d'être. Mais cette conscience d'être, elle est connue. Elle est connue, sans être conscient. Qu'est-ce qui la connaît ?
L'amour.
De nouveau, vous êtes soufflé.
Mais...
Donc, il faut arrêter de décortiquer ce qui nous dépasse.
Ah oui, si vous pouvez, c'est mieux, mais il faut, tu vois, le problème de « il faut », c'est que ça devient une stratégie pour... C'est pas la peine, tu tires sur l'élastique. Toi, dans ce que je fais là, je tire pas sur un élastique, je mets pas en place une stratégie pour atteindre quelque chose. Je vous fais simplement regarder dans une certaine direction. Et c'est ce regard qui transforme les choses. C'est ce regard qui, par sa magie propre, fait que il y a des choses qui nous lâchent, que tout d'un coup, il y a des prises de conscience qui se font. Des pensées arrêtent d'être crues, enfin, etc. C'est pas moi qui fais quelque chose. C'est le regard. En fait, nous sommes le regard. Mais c'est pas un individu séparé. C'est...
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de prise de décision, que en fait...
Oui,
qu'on est tiraillé pendant des jours, oui, fait, mois, oui. Qu'est-ce qu'on va faire, hein, voilà. Et ça peut nous obséder, et voilà. Et puis vous disiez que tout d'un coup, quand c'est juste, tac, hop.
Pas quand c'est juste, à un moment donné, le choix se fait.
Oui, le choix se fait. Bon. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand ce déclic ne se fait pas, il peut se passer en fait que. Ça peut être l'environnement ou votre conjoint ou votre qui fait oui. que la décision se prend malgré vous parce que vous n'avez pas été capable de la prendre, oui. vous n'avez pas senti s'il n'y a pas eu de déclic. Mm-hmm. Et après, donc la décision donc est prise par votre manque.
La décision est prise.
La décision est prise, mais vous avez subi. Un environnement, vous avez...
Subi, pourquoi subi ? Il est là, l'environnement.
Oui, mais cette décision n'est pas forcément quelque chose qui... n'est pas forcément la décision que vous auriez souhaité et ne vous correspond pas forcément et vous n'êtes pas forcément heureux. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Que vous êtes conditionné par un environnement.
Oui, les choix sont faits en fonction de conditionnement.
Voilà.
Et en fonction de l'environnement.
Et votre vie
en fonction de pensées crues. Et ça oriente la vie, exact. Mais c'est pas vous qui faites des choix. Vous êtes en train de dire ce que je dis.
C'est non choix.
Il n'y a pas de choix. En fait, il n'y a pas de choix. En fait, vous n'avez jamais rien choisi. Des choix se sont imposés.
Voilà, parce que ce déclic-là, c'est magique. Là, il n'y a pas de choix.
Mais alors, puisque vous n'avez jamais rien choisi, comment pourriez-vous être responsable des conséquences de vos choix, puisque vous n'avez jamais rien choisi ?
Donc, c'est la liberté, on est culpabilise totalement.
Voilà, par exemple. C'est pas la peine. Ça ne sert à rien de se culpabiliser pour des choix que je n'ai pas faits. Ça n'a pas de sens. Mais faut, par contre, si je le fais comme une stratégie, « Ah, mais moi, j'ai jamais choisi, donc je ne suis pas coupable. » Non. Mais s'il est réalisé qu'en réalité, j'ai jamais choisi, la culpabilité tombe d'elle-même. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de me sentir responsable. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire de sentir responsable, que je vais avoir un comportement d'irresponsable. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais cette culpabilité dont on n'a absolument pas besoin et qui nous fait souffrir, s'effondre. À partir du moment où il est vu qu'en réalité, j'ai jamais rien choisi. Les choix se sont imposés de même, à un moment donné ou à un autre, en fonction de mes conditionnements, de mes gènes, des influences de ci, de ça, de pensées crues, etc., sur lesquelles j'ai aucun pouvoir. Mais ça a besoin d'être réalisé. C'est au moment où c'est réalisé que ça a de la valeur. Parce que là, il y a une vraie liberté. Sinon, c'est une autre prison. Je ne suis pas responsable. Oui, c'est un autre conditionnement, c'est une autre croyance. Mais dans cette liberté que là maintenant vous sentez, est-ce que vous sentez que vous allez faire n'importe quoi parce que vous n'êtes pas coupable ? Ça n'a juste pas de sens. C'est évident que ça n'a pas de sens. C'est plus de liberté intérieure, mais c'est pas plus de n'importe quoi. C'est moins de n'importe quoi. Parce qu'on ne va plus agir en fonction de sa culpabilité ou de l'obligation de faire un choix correct parce que sinon, je ne sais pas quoi. Ça va être beaucoup plus en fonction de ce qui est en moi à l'intérieur parce que ce sera moins conditionné, parce que ce sera plus intérieur, plus en fonction de ce que je suis. Donc ce sera plus avec plus de justesse probablement, pas avec moi. Ce ne sera pas du n'importe quoi, au contraire. Oh, j'aurais dû amener. Je suis récemment tombé sur le livre du Tao Te Ching, traduit par Stephen Mitchell. C'est une merveille que je vous conseille. Justement, il dit ça. Il dit quelque chose comme ça quand. Je ne sais plus. Quand le Tao est oublié, quelque chose. C'est mal dit, hein, je sais que ce n'est pas les mots, mais du style. Quand le Tao est oublié, alors on croit qu'on est responsable de ses choix. Enfin, puis, vient la morale, et puis vient. Enfin, etc. Et quand ça s'est oublié, alors il vient ça. C'est l'enfermement dans lequel on tombe petit à petit, comme ça.
Je vous interromps. Oui, juste, si vous permettez, juste par contre, ce que vous disiez tout à l'heure, quand on se pose des questions, quand il y a une recherche et que tout d'un coup, tac, elle déclic, on sent que c'est juste, là, c'est super, on se sent super bien. On aimerait que ce soit tout le temps comme ça. On aimerait que ce soit tout le temps comme ça. Je l'ai vécu il y a pas trop longtemps et j'ai su que c'était juste. Tant que je l'ai fait, je ne me suis plus du tout posé de questions et j'ai fait conscience.
C'est une expérience. Et après, vous faites l'expérience, j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça.
Mais oui,
l'expérience de la tension, parce que ça devient tout de suite une tension corporelle, j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Et si vous ne pouviez pas penser, j'aimerais que ce soit tout le temps comme ça.
Moi je dirais que ce n'était pas de la tension, c'était de la spontanéité, c'était le plaisir, c'était la détente, c'était l'abandon.
Oui, au moment où ça se passe. Au moment où ça se passe.
Non, au moment du choix, de la prise de décision.
Oui, à ce moment-là, oui.
Voilà, et qu'après tout ce qui va en découler, bon, je fais confiance. Oui.
Voilà, à ce moment-là, ça coule de soi-même.
Voilà, ça coule de soi-même et ça libère et c'est super si ça pouvait tout le temps être comme ça.
Dans... Stop.
Ça dépend pas de
nous,
hein.
L'idée
de toujours vouloir être bien.
Quand vous rajoutez... Voilà.
Voilà, parce qu'on est bien. Voilà.
Mais c'est l'expérience, ce n'est qu'une expérience qui est merveilleuse. Il n'y a pas à y enlever un iota. Hein. Et après vient l'expérience, si seulement c'était tout le temps comme ça. Qui dure ?
On ne tire pas le projecteur pour appuyer sur pause.
Oui, mais surtout les deux. L'expérience de vous, ça arrive de soi-même, et l'expérience de si seulement ça pouvait être tout le temps comme ça, ou l'expérience de la prise de tête pour une décision, tout ça apparaît en l'être T, en je suis, en moi en tant qu'être. Les deux apparaissent, les deux sur fond d'être T. Essayez d'arrêter d'être. Et bien, vous constatez que le choix qui se fait tout seul et qui est facile et très agréable, et la prise de tête, les deux n'affectent aucunement je suis, l'être T.
En fait, c'est
une seconde.
Pardon.
C'est clair ou c'est pas clair?
Votre
j'ai envie d'une expérience positive, j'entends ça. Moi, je veux des expériences positives. Mais une expérience positive, c'est une étiquette à poser sur un type d'expérience.
Non, c'est pas ça, je ne t'ai pas exprimé avec assez de précision.
Je crois que si.
Est-ce
que vous avez déjà eu énormément de bonheur à éprouver une douleur physique ? Non. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'expérience douloureuse est étiquetée mauvaise, négative.
À ce sens que. Parfois, quand la souffrance physique, vous arrivez à essayer de vous détendre, à essayer de sublimer, de la dépasser,
bon, à l'accompagner,
oui, à l'accompagner, à l'accepter et à l'offrir, bon, il peut se passer, par exemple, dans la prière, dans la méditation, vous pouvez connaître des moments de grande félicité, de grande joie profonde.
Mais ce sont encore des expériences. Des expériences.
Même si physiquement, vous êtes complètement à la terre pour différentes raisons.
Oui. Oui. tout cela apparaît au sein de ce que vous êtes. Et l'expérience douloureuse, et l'expérience extatique, et la souffrance, et le monde, tout. Si vous vous attachez à avoir des expériences positives, il y a refus de ce que vous étiquetez expérience négative. Ça crée déjà cette dualité et ça crée à plus ou moins long terme, ça crée un mouvement de balancier et ça crée forcément bonheur, malheur, enfin souffrance, plaisir, etc. Parce qu'alors vous êtes aussi, on pourrait dire, attaché à ne pas vivre d'expérience négative, étiquetée négative.
J'entends bien, mais quand vous, vous avez vécu, bon, quand vous avez vécu un certain nombre d'expériences douloureuses et négatives, à un moment donné, vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie justement d'essayer de par toutes ces expériences.
Tout dépend ce que vous appelez envie. Il y a tout le temps l'allant naturel, le mouvement de la vie, le corps, il va faire si peu pour ne pas avoir mal, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire, vous mettez la main sur quelque chose de chaud, automatiquement le corps leur retire la main. Donc le corps prend soin aussi de lui-même, quelque part. Si vous parlez d'envie en termes d'un désir dans le futur, non. Ça peut très bien disparaître, il n'y en a pas besoin. Il faut une pensée d'un moi qui va faire quelque chose, qui va faire quelque chose pour qu'il y ait une idée de futur, pour que dans le futur ce soit différent d'aujourd'hui. Sous-entendu, aujourd'hui c'est pas bien comme ça. Ça en fait des pensées crues. Enlever toutes ces pensées, qu'est-ce qui reste? La douleur. Et alors? On a tendance à penser que la douleur est une expérience négative, qu'il faut en sortir le plus vite possible, que vraiment, c'est pas bien, quoi. Il n'en faut pas. C'est faux.
Ok pour l'expérimenter, mais si ça dure trop longtemps, enfin si ça...
Mais à qui ça appartient que ça dure? Ça dure, ça dure. Ça dure une idée de temps. De passé, de futur. Oh, hier j'avais mal, et aujourd'hui j'ai encore mal, et demain j'aurai encore mal. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Sous-entendu. Et j'en ai assez d'avoir mal, et je voudrais que ce soit autrement. Tout ça, c'est tout des pensées. En fait, toutes ces pensées, il reste la douleur ici, maintenant. Même pas l'idée que ça dure. Mais comme la douleur est refusée, on ne peut pas en faire vraiment l'expérience. Et on ne peut pas vraiment en sourire. Par contre, quand elle n'est pas refusée, ça peut me faire éclater de rire. Il y a de nombreuses personnes de part sur cette planète qui ont vécu des douleurs fortes et longues et qui restaient très souriants. La douleur, personnellement, j'ai déjà vécu plus d'une fois une douleur, c'était amusant, étonnant, amusant et merveilleux. Mais il n'y a pas le refus de la douleur à ce moment-là, c'est sûr, parce que si elle refusait, c'est juste pas possible. Ça devient insoutenable. Mais on est pris par nos schémas mentaux, on croit que... C'est faux.
Ce serait possible d'avoir des exemples, parce que là, enfin, je ne sais pas si je suis la seule, mais ce que vous venez de dire, c'est difficile à entendre. Pour beaucoup d'entre nous, le fait qu'on puisse avoir, enfin, être dans une douleur profonde, réelle,
Je parle de douleur physique, hein. Je vais distinguer la douleur qui est physique de la souffrance qui est psycho-émotionnelle.
C'est comme ça que je l'ai entendu, c'est d'autant plus difficile.
Il y a quelques années, j'ai fait une colique néphrétique. Ceux qui en ont eu savent comment c'est douloureux. La première fois que j'en ai eu une, j'ai même dit « Maman, tellement je ne pouvais pas. » C'était tellement c'est douloureux. C'est, vraiment, ça fait très très mal. Et ça fait tellement mal que ça fait vomir aussi. Donc j'étais là, avec cette douleur, et en train de vomir. Et à ce moment-là, c'est une grâce, c'est un cadeau, je le dis bien, est apparu, il m'a été donné de voir ce qui se passait réellement. Il y avait la douleur qui faisait vomir, physiquement, le corps avait mal, donc ça vomissait. Et puis, il y a eu une microseconde, et puis il y a eu l'histoire de moi qui est apparue d'un coup, en une microseconde, tout d'un coup. Il faudrait 10 minutes pour dérouler le fil. Et c'est du style, et c'est encore à moi que ça arrive, et combien de temps ça va durer, et je suis seul, et comment je vais faire si je dois aller à l'hôpital, et patati patata, vous connaissez l'histoire qu'on se raconte. On a tous à peu près le même genre de discours mental, sinon ça varie, il y a des variantes, mais voilà. Et toutes ces pensées sont apparues d'un coup, sans racine. C'est-à-dire qu'il y avait la douleur, une microseconde de temps et d'espace, et puis ce paquet. Sauf que ce jour-là, il a été vu comme étant un paquet apparaissant au sein de la conscience d'un coup, sans racine, sans substance. Il n'a pas été cru. Je ne dis pas, je ne l'ai pas cru. Ça n'a pas été cru. Et ça s'est effondré. Et ce qui est resté, c'est la douleur, le corps qui vomissait, et l'expérience entière est pleine de la douleur et du corps qui vomissait. C'était, oh, comme c'est drôle, oh, une première fois. Amusé, étonné, émerveillé. Aucune critique de la chose. Une expérience nouvelle. Une expérience. Beaucoup plus récemment, j'avais un lumbago dû à soulever des cartons et je marchais dans la rue. Alors c'était drôle parce que le corps ne pouvait pas se tenir droit à cause de la douleur, donc il se pliait, mais le corps avait envie de se tenir droit parce que c'est sa nature. Donc il faisait comme ça. Ça m'a fait rire. Bon, je ne sais pas. Ouais. Non, on va finir un peu plus avant midi. Puis on finira avant midi. Deux exemples parmi d'autres. Mais cet étonnement, cet émerveillement, cet amusement peut survenir dans des circonstances agréables aussi. C'est-à-dire qu'il y a comme un, j'allais dire un arrêt sur image, pas un arrêt sur image, mais il est vraiment vu que tout ça arrive au sein de moi-même. On va garder moi, c'est une facilité langagière qu'on va continuer à utiliser. Ça arrive en moi, c'est marrant, Mais ça peut être douloureux ou plaisant pour le corps, c'est en soi.
Oui, je ne sais pas, vous avez prononcé le mot grâce, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde.
Enfin, nous sommes la grâce même.
Je ne sais pas. Je vois autour de moi des gens qui souffrent, j'ai un papa qui est dans un état effroyable.
Une fois de plus, distinguer la douleur de la souffrance.
Je prie pour que ça lui soit donné. Cette grâce. Mais
la douleur est douloureuse et elle épuise le corps. Soyons clairs là-dessus. Hein. Je veux dire, la douleur est douloureuse, pas toujours. J'ai aussi vécu des moments où la douleur disparaissait complètement. Mais bon, peu importe. D'une façon générale, la douleur est douloureuse et elle épuise le corps. Ça, c'est évident. La souffrance est psycho-émotionnelle et liée à des pensées crues. C'est une chose d'avoir mal et d'être épuisé et de ne pas pouvoir se lever, et c'est une autre chose d'en souffrir.
De ne pas faire la distinction.
On ne la fait jamais, la distinction. On nous a appris à tout mélanger. Ouais. Enfin, on nous a appris, puis c'était un mécanisme aussi un peu naturel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mélangé tout le temps. Oui. Et aller voir les pensées crues. Les pensées crues, c'est je souffre et ça dure et j'en ai marre et je voudrais que ça finisse, par exemple. Ça, c'est, comment ne pas croire ça ? Je ne vais pas demander à quelqu'un de pas croire ça.
Mais le poids même, dans certains cas, c'est la raison qui bascule. Hein.
Mais bien
c'est,
évidemment.
C'est le cerveau qui...
Oui. Là, ça, c'est encore autre chose. Là, il y a plus de souffrance, non?
Oui, mais justement, mais il y a eu tellement de souffrance et
d'inacceptation
et de refus on bascule dans
c'est possible, mais le problème, c'est le refus. Mais vous savez, je ne suis pas du tout le seul à dire ça. Hein. Je veux dire, les grands maîtres hindous le disaient, ils le disent, ils le redisent, et des enseignants occidentaux le disent aussi. Je veux dire, c'est connu, quoi. C'est pas... Mais par contre, ne croyez pas ce qu'on vous dit là sur parole. Explorez-le pour vous-même, vraiment. Allez voir dans les recoins.
Par rapport à votre douleur de la colique néphritique, comment est-ce que vous l'avez fait passer, si vous l'avez fait passer?
Ah, elle a continué. Après, ça vient aussi. Hein. Il y a des crises de colique néphritique. Ça a duré un moment. Quelques mois. C'est pas important. Après, on peut utiliser tout ce qu'utilise la médecine. Hein. Chez moi, ça marche pas forcément très bien. Chez d'autres, ça marche très bien. Ça dépend des fois. C'est des choses personnelles particulières. Ça n'a pas... Peu importe. Et attention, je ne dis pas qu'il m'arrive pas aussi, encore parfois, d'en avoir marre d'avoir mal. Ça peut aussi émerger. C'est-à-dire, n'allez pas croire que c'est un état où il y a des choses qui sont exclues. Non. Tout est accueilli. Même le ras-le-bol, ben, il y en a marre. Ben oui, ben, il y en a marre. Mais par contre, le fait d'en avoir marre n'est pas refusé. Il n'y a pas d'histoire qui vient se rajouter, généralement, du style... je sais pas quoi.
Il y en a marre
d'en avoir marre, et puis il y en a marre que la vie soit comme ça, et puis ça s'accroche pas, quoi. Ça accroche pas. Tout peut apparaître, mais d'une façon générale, ça s'accroche pas.
Ça
a marre, ça accroche peut-être une demi-seconde, s'il y a un bruit très fort, on sursaute, et puis forcément, il y en a qui s'encorprennent, donc voilà, ça accroche une demi-seconde, c'est vu, pouf, ça s'en va. Ça s'effondre parce qu'il n'y a rien qui le maintient, c'est pas cru pour réel. Mais l'expérience d'en avoir marre peut arriver, ou l'expérience de la colère, ou l'expérience de la tristesse. Mais c'est vécu, je dis bien expérience de. Ce sont des expériences. Ou une expérience extatique, j'en fais pas plus un fromage. C'est pareil, c'est pas. Ça peut me faire rire autant, quoi.
Quand ça veut faire bien, derrière, normalement, il y a... Quand on peut faire bien, derrière, même si c'est le ça qui est là, derrière, il y a des conséquences.
Bien sûr. Mais dès qu'il y a une pensée qui est crue, il y a des conséquences.
Oui. C'est pas mal de vouloir bien faire. C'est pas mal, par exemple, d'aller voir ses grands-parents, d'aller voir...
Bien sûr que non, voilà. C'est pas mal d'aller voir ses grands-parents pour que ce serait mal.
On a cette pensée qui arrive, on va la croire, on va la croire, et puis...
Il y a une pensée qui émerge,
voilà.
Elle est suivie ou pas suivie, peu importe.
Ouais.
Il y en a une autre qui émerge, elle est suivie ou pas suivie, peu importe.
On aura toujours tendance à caser ce que j'ai fait, c'était bien, il fallait que je fasse ça, ou il fallait...
Ça, c'est des pensées crues. Tu as l'idée, par exemple... excuse-moi, je reviens. Tu as une idée, par exemple, que je pense à mes grands-parents, je suis allé les voir.
Ouais.
Il y a pensée de grands-parents, il y a mouvement d'aller les voir. Il pourrait y avoir pensée de grands-parents et pas mouvement d'aller les voir.
Oui.
Il pourrait pas penser de grands-parents, mais aller les voir. Ou pas penser conscientiser.
Ouais.
Il y a des relations de cause à effet... qui sont faites, qui ne sont pas forcément réelles. Surtout s'il y a « Ah, il faut que j'aille les voir, ce serait bien que j'aille les voir », etc. Là, ça devient des pensées crues, conditionnées, qui créent une tension.
Oui.
Mais penser de grands-parents, ça ne crée pas de tension. Aller voir les grands-parents, ça ne crée pas de tension. Ne pas aller voir les grands-parents, ça ne crée pas de tension. Pas de penser de grands-parents, ça ne crée pas de tension. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement naturel de la vie, des choses qui se passent, les pensées apparaissent, les mouvements, les actes sont posés, etc. C'est naturel, et ça se fait. Et puis il y a des conditionnements, il y a des pensées qui accrochent, et qui sont crues et qui créent des tensions. La différence, c'est, alors, entre une pensée et une pensée crue.
Non, oui, vous avez répondu, c'était la différence entre l'effort naturel et la pensée.
C'est ça la grosse différence, c'est que des pensées, il y en apparaîtra tout le temps, des sensations, il y en apparaissent tout le temps. Si vous regardez là maintenant dans votre corps, il y a plein de sensations. Mais vous n'en faites rien. Vous vous en souciez absolument pas. Maintenant, imaginez que vous preniez une sensation et que vous en fassiez toute une histoire. Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sens la cuisse. Ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que j'aille voir le docteur. C'est fini, quoi. C'est l'enfer.
Oui, mais
c'est pas... À partir du moment où on fait une histoire de quelque chose qui apparaît, ça devient vite un problème.
Et puis l'allure naturelle, c'est voilà, bouger la jambe.
Bah oui, naturellement, on bouge le corps tout le temps. Tout le temps.
Oui, si je peux me permettre, on n'en fait rien parce qu'on est dans un contexte.
Personne ne t'empêche de sortir et de bouger ou de partir. Tu as ta totale liberté. Tu n'es pas enchaîné à ta chaise. Roland y est rentré et sorti plusieurs fois. Il est intervenu pendant que je parlais. C'est vrai, il est tranquille.
Oui, mais si on se mettait tous à faire ça, c'est ingérable. Vous vous retrouvez, je ne sais pas, tout seul ou avec votre
enfant. On est
quand même là.
Mais pourquoi ingérable? Pourquoi ingérable? Ça voudrait dire quoi, ingérable? Que je ne pourrais pas le gérer?
Mais non, je ne doute pas de ça, pas du tout.
Bah alors?
Je ne doute pas, non, c'est pas. Non, mais on est là quand
ça
même
dans un
but. On a certaines questions, on a certaines attentes.
Bah, c'est pour ça que tu restes assis sur ta chaise. Bah, voilà. Parce qu'il y a certaines questions et que
c'est le mouvement est là. On ne se permet pas, on ne se donne pas la liberté de se lever, d'écouter nos messages, de passer un texto, madame à côté d'écouter, de faire autre chose. On se tient. Vous voyez, il y a un code quand même. Pour assurer cette cohésion de groupe, il y a quand même certaines règles.
Mais est-ce qu'il y a besoin d'un moi pour, entre guillemets, respecter ses règles, ou est-ce que ça se fait de soi-même?
Il y a un raisonnement.
Il y a un raisonnement.
À la dernière fois, après votre conférence, je suis allée au supermarché, j'ai pris du chocolat, et je me suis dit, bon, bah, c'est pas moi, l'envie de chocolat, ça vient pas de moi, et puis, hop.
Mais... Ça, c'est des pensées crues, ça vient pas de moi. Mais ça vient de moi, c'est une pensée.
J'ai regardé le désir, et puis j'ai laissé passer le désir. Donc, non, mais c'est des trucs tout bêtes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours intervention du raisonnement pour la cause à effet, parce que dans ce monde existentiel, il y a de la cause à effet. Alors, il y a des causes à effet qu'on a essayé de contrarier en se disant oui, mais de toute façon, je peux me permettre de manger ça, c'est pas un souci, je ne veux pas tomber malade, et c'est faux. Et il y a des raisonnements où on sait que bon, ben, on a ça à faire parce que sinon, il y a ça qui arrive. Et ça, on ne peut pas s'en. Il y a des pensées crues qui sont bonnes pour vivre dans la vie quotidienne, parce qu'elles sont fondées sur du vécu.
Ça s'appelle une pensée crue.
Oui. Oui, je sais que c'est une pensée crue. C'est un peu conscience. Mais.
Et tu as envie de la maintenir.
Exemple. Je suis allergique au chat. Je ne vais pas m'amuser à aller caresser de gros matrous en face tout de suite dès que je le vois.
Oui, oui, ça c'est vrai.
Voilà.
Mais ça, c'est du sens pratique.
C'est du sens pratique, mais c'est pas.
Mais là, pour ça, tu n'as même pas besoin d'avoir une pensée crue. Tu vois un chat, puisqu'il y a allergie, automatiquement, tu ne vas pas. Naturellement, tu ne vas pas aller vers lui. Ou même s'il y a le mouvement, c'est où, attention, il n'y a pas besoin d'avoir tout un système
voilà,
de pensées protégées, je ne sais pas quoi.
Ça se fait. Il y a des pensées qu'on est obligé de maintenir pour vivre.
Mais non.
Si.
Mais non, ta réaction face au chat, elle se passe de pensée.
L'alcoolique. L'alcoolique qui a réussi à s'en sortir. Il va avoir l'attrait ou le fumeur.
Pas la chose. On ne peut pas parler de gens qui ne sont pas là. Si tu es alcoolique et fumeuse, on peut en parler, mais sinon, on parle de toi. Parce que...
Non, mais c'est. On a appris à avoir une vie saine, réglée, et tempérée ou modérée. Et on sait qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas tomber malade, pour ne pas être stressé.
Et on tombe quand même malade et on est quand même stressé.
Non. Je ne suis pas d'accord parce que... Même enfin, je ne vois pas pourquoi
Si c'est vrai ce que vous dites.
À quoi sert le chocolat?
Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des choses ou qu'il ne faut pas faire de choses.
Non,
je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas suivre des conseils d'hygiène, etc.
C'est ça, c'est
mais ça, c'est un apprentissage à la limite.
Tu n'as
pas besoin de tout un renseignement mental pour te brosser les dents le matin. Quoi.
C'est un apprentissage, mais ça fait partie, c'est des pensées crues qu'on doit, qu'on maintient, au moins pendant une certaine période, pour pouvoir tout simplement être dans cette vie.
Si tu veux.
Ouais. Enfin,
je suis pas sûr que ce soit vrai comme ça.
D'accord.
Je suis pas certain. Franchement.
On peut plus s'appeler à l'automatisme alors. Qu'est-ce que...
Au mouvement naturel de la vie. Le mouvement naturel de la vie s'exprime. Alors ça peut passer par des pensées. J'ai rien contre les pensées. Hein. Faut pas non plus croire que les pensées seraient les malvenues. Ça n'a pas de sens. Et de toute façon, il y a un mental tout à fait fonctionnel. Mais quelle heure est-il? Il est telle heure. 2 et 2 égale 4. Je ne sais pas. On va pas remettre ça en question. Mais aller penser qu'il faut avoir une attitude particulière pour réussir à survivre dans le monde, à gagner sa vie, c'est pas faux. Mais c'est pas vrai. Et c'est pas vrai.
C'est-à-dire que dans certains contextes, vous jouez un rôle, c'est comme le théâtre.
Mais ça se fait automatiquement aussi. C'est appris, une partie apprise, et puis une partie automatique.
Avec l'expérience.
C'est pas bon, maintenant je vais jouer tel rôle. Au milieu de la conversation, je dis bon, maintenant je vais jouer tel rôle parce que. Non, ça se fait, quoi. Ah, bien sûr que c'est basé sur des pensées crues aussi. En partie. Sur des apprentissages. Je sais pas.
Oui, justement à ce propos, enfin, je voudrais rebondir sur ce que disait Madame. Et là, elle parle de théâtre. Bon, effectivement, là, on vous écoute. On est tous venus avec une recherche et puis donc un désir de vous écouter. Mais elle parlait aussi des codes. À partir du moment où vous avez un groupe qui ne respecte pas les codes et qui vous empêche. De transmettre ce que vous avez à transmettre.
J'ai rien à transmettre.
Non, mais
ouais, ça ne me gêne pas.
Oui, mais bon, il y a des. Disons, on peut imaginer, en dehors, là c'est mon exemple de ce matin, mais on peut imaginer d'autres cas de figure où on peut se trouver, de par son travail, amené à communiquer des choses à un groupe, à avoir des objectifs, à tenir par rapport à ce groupe. Et si le groupe ne respecte pas un minimum de code, là on se retrouve en difficulté. Alors, comment est-ce que on peut
Je sais pas, moi j'ai pas de stratégie par rapport à ça. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je n'applique pas une stratégie. Je sais pas ce qui se passerait. Je sais pas ce qui se passera. Je sais pas ce qui se serait passé. J'en sais rien. Tout est possible. Tout est possible. Je peux me mettre à hurler. Je peux rester silencieux. Je peux partir. Tu peux dire une phrase directe à une personne, tu peux. Tout est possible, je n'en sais rien de ce qui se passera. Ça va arriver.
Mais bon, là, on est dans l'immersion, justement, d'une expérience, quand elle est répétée, si on pense à quelqu'un qui exerce un métier, certaines professions dans ce cadre-là, et que la personne est soumise à répétition à ce type de tension. Par rapport à un groupe qui n'est pas dans le respect de certaines règles de base.
Tout peut arriver.
Là, c'est hyper stressant.
Oui, mais il n'est pas obligé de rester là.
Non, il n'est pas obligé de rester là.
Et s'il est stressé, c'est qu'il y a des pensées crues. S'il y a des pensées crues. Parce que... Il reste là parce qu'il a peur de partir ailleurs, parce qu'il peut-être il n'arrivera pas à trouver un autre travail, ou bien il reste là, ou bien il pense que de toute façon il mérite ça, ou bien il pense que je sais pas moi. Il y a des pensées crues.
Mais là on revient donc à la question qu'on posait au départ, c'est-à-dire le choix, vous venez de le dire, la personne pourquoi elle reste là? Parce qu'elle est prise effectivement dans un réseau de pensées crues, dans la peur de perdre son travail, mais est-ce qu'elle a vraiment le choix?
Non.
Est-ce qu'elle a vraiment le choix?
Non. Parce qu'il n'y a pas un moi, c'est pas qu'elle a choix ou pas choix, c'est qu'il n'y a pas un moi qui pourrait faire un choix.
Et alors, donc, si elle continue à rester là, elle ne prend pas de décision, bien qu'elle souffre de par l'accumulation de tout ce qu'on vient d'évoquer, de ses pensées crues éventuellement qui aggravent le problème. Mais donc, elle est prisonnière quelque part. Elle n'est pas, et en même temps, elle n'a pas le choix. Si elle voudrait partir, elle a des traites à payer. Alors, est-ce que, dans quelle mesure, alors vous allez me dire, c'est à nouveau la stratégie, vous n'êtes pas là pour. Mais dans quelle mesure la compréhension justement de cette pensée non-duelle dont vous parlez peut apporter, sinon une solution immédiate, une amorce à la personne qui est dans ce dilemme-là de vie. C'est-à-dire elle est prise dans une situation.
Tout ce qui arrive, est une invitation. Tout. Absolument tout ce qui arrive est une invitation. Un rappel du regard à lui-même. Un rappel de ce qui est à ce qui est. On pourrait le dire comme ça. C'est que des mots, hein.
Donc l'invitation à transformer le regard que je...
Pas le transformer, à revenir au regard.
À revenir au regard.
Il est déjà complet, le regard. Ne cherchez pas à développer quoi que ce soit. Vous êtes. Tout ce que vous souhaitez, vous l'êtes déjà.
En fin de compte, l'écran blanc et le regard, c'est la même chose.
C'est une image, hein, c'est un concept. Oui, j'ai pris ça comme comparatif, c'est pas la même chose.
Je vous ai fait une image d'écran et ça m'a aidé. Et après, j'ai vu que de temps en temps, avec des pensées, on appuyait sur le projecteur pour arrêter l'écran. Puis je me suis dit, mais le projecteur et puis tout ça, c'est dans l'écran.
C'est tout un, il n'y a pas de séparation.
Ce serait en fin de compte aussi l'écran. Tout mouvement,
ça vient. Tout à l'heure, j'ai juste pris un exemple comme ça. Là, tu es en train de me faire un truc mental avec.
C'est avec la connaissance. Tout à l'heure, on a parlé de l'inconnu, l'inconnaissable, avec le connu. Et j'ai vu cette racine de l'inconnu qui était la racine de ce qu'on connaît, qui venait de l'inconnu, qui venait de cet écran.
Mais tout provient de ce qui ne peut pas être connu. Tout provient de ce que j'appelle ce qui est. Mm-hmm. Tout provient de cet inconnaissable. Tout. Tout est la manifestation de cet inconnaissable. Mm-hmm. Sans exception.
Mm-hmm.
Mais tout est déjà pleinement accueilli par cet inconnaissable.
En fin de compte, on aurait peur de l'inconnu, alors qu'on ne le connaît pas, on n'aurait pas en avoir peur.
Vous l'êtes.
Mais oui, mais c'est ça qui est complètement aberrant. C'est cette peur. On est sans arrêt sur le connu, les idées on est là, hein, le connu, on est ça, on n'en a pas peur, on met le pied dedans.
Alors, des fois on en a peur aussi, mais oui.
Oui. Et puis l'inconnu, qui est quelque chose de.
Peu importe comment tu le définis, t'en as peur, c'est tout, c'est un fait.
Quelque part.
C'est un fait. Il y a de la peur à propos de l'inconnu. Oui, il y a de la peur. Mais ça permet de maintenir le jeu. Ce qui est intéressant de voir, c'est tout ça, c'est un jeu.
Mais j'accepte que ça tourne, que je fasse des tas de choses, tout ça, c'est bien. Sans juger, quand je me vois juger, ça me fait éclater. Quand je me suis tout à l'heure devant, à chercher la boulangerie, qui m'a fait attendre 20 minutes, après je me suis dit, ben, quelle inquiétude. Tu l'as bouffé en pensant autre chose, et puis plutôt que de dire, oh, t'es inquiète, et puis c'est tout. T'inquiète, impatiente. Hein? Donc, j'ai vu que c'était tout un jeu.
Eh oui, mais l'impatience, c'est un jeu. Si tu constates l'impatience au mot, tu regardes, tu es avec, ou tu es vraiment avec l'impatience, ou tu la laisses vivre en toi, mais c'est délicieux, c'est marrant, quoi.
J'ai vu le moment où j'étais pas avec. Et j'avais tout de suite des idées, de dire, voyez, qu'est-ce qui commande, on est là pour la semaine, on est là pour, j'ai vu le jeu que je me suis fait, qui était vraiment, bon. Et là, le coup de l'écran blanc, il y a quelque chose qui est venu, j'irais en plus enrichir, communifier quelque chose.
Si vous voulez, il y a trois... Je ne sais pas quel mot mettre derrière. On va mettre truc. Il y a happé par l'existentiel. Ça, c'est le premier. C'est les milliards d'êtres humains sur cette planète. C'est comme ça qu'ils fonctionnent la plupart du temps. Happé par ce qui arrive. Par l'existentiel. Il y a ce mouvement de ça se décroche et pof, je suis. L'être T. Ah, mais je sais que je suis. Et alors, tout cet existentiel arrive au sein de cet être-té, sans l'affecter. C'est connu, c'est su, dès qu'on regarde l'être-té. Voilà. Et là, déjà, c'est déjà bien tranquille. Et puis, il y a ceux-là qui connaissent l'être-té. Là, on ne peut rien en dire.
Donc ce là, quand tu parlais, il y a du mouvement à l'intérieur du corps. Il y a un mouvement, c'est animé.
Ah ben, il y a l'existence, il y a la manifestation.
Tout ça. Et là, quand je parle de là...
Ce qui est l'inconnaissable...
C'est stable.
Oui, sauf que tout émerge en lui.
Voilà.
En lui.
Oui.
Donc, c'est les deux. Il est être et non être, il est manifesté et non manifesté, il est inconnaissable, de toute façon, t'en sais rien. On n'a pas accès. Mais en tout cas, là, cet inconnaissable, il est indubitable, parce que quand on dit qu'est-ce qui connaît je suis, ouf, on est soufflé, on le sait bien, on le sait, on ne peut pas douter une seconde de cet inconnaissable. Et donc cet inconnaissable, je suis et l'existence. Et d'une façon générale, on est happé par l'existence, on croit à cette existence, et les questions tournent autour de cette existence. Comment faire pour améliorer l'existence? Comment faire? Quoi faire pour pas souffrir dans cette existence? Comment faire pour changer l'existence? Mais c'est la fin de la chaîne. C'est l'illusion parfaite, c'est le jeu parfait. Dès l'instant où vous êtes « je suis », vous revenez à cet être-té que vous êtes, l'existence ne pose plus de problème. Il n'y a plus besoin d'échanger quoi que ce soit. Et la vôtre se pacifie. On pourrait dire, vous allez voir un film, vous êtes happé par l'histoire. Ah, et puis il se passe des choses et vous vivez des émotions. Vous y croyez. Ah, pourvu qu'il ne fasse pas ça à certains moments dans le film. Ah non, non. Et puis justement, il n'y a que l'histoire qui se raconte. Donc, il n'y a pas à voir un film juste avec des gens qui vont toujours bien. Il faut bien qu'il y ait une histoire. On aime l'histoire. Et c'est pareil avec l'existence. On aime l'histoire. Alors, on est happé par ça. Comme pour un film. C'est je suis, toc, qui va se coller à l'existence. Bon, c'est des mots, hein. Vous n'arrêtez pas au mot. C'est juste des exemples pour vous saisir la chose. On aime ça, hein. Mais aucun personnage d'un film ou d'un rêve n'est jamais sorti du rêve pour vous serrer à la main, ou du film. C'est un film, c'est un rêve. Et l'existence, c'est pareil. C'est pas une réalité définitive, ultime. C'est seulement ce qui arrive. Et ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça mérite la plus grande attention, et c'est de la plus haute importance. Mais ce n'est que ce qui arrive. Et ce n'est que ce qui arrive. Le dernier maillon de cette totalité. Vous êtes aussi l'existence et l'existentiel. Vous êtes aussi ce qui arrive. on est l'ensemble, on est ce qui est, je suis et l'existence. On est le tout, il n'y a pas de séparation. C'est bien ça le non-duel. C'est bien pour ça qu'on parle de perspective. D'une façon générale, on a le nez collé dans l'existence et on est là, on croit à ce qui arrive. Et quand on revient à l'être T, c'est relativisé. Pourquoi ? Parce qu'on a un point de vue plus large. L'existence apparaît en nous, on n'est plus collé. On n'a plus l'impression que ça apparaît à moi, c'est à moi que ça arrive. On voit que c'est en nous que ça apparaît. Et avec l'étape suivante, le pas suivant, c'est cet inconnaissable qui contient le tout. C'est une perspective encore plus large. Qui englobe tout. Il n'y a plus de séparation possible. Il n'y en a jamais eu. L'idée de la séparation s'effondre.